Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse fête, fête des expiations à vous tous. J'espère que cette fête se passe bien pour vous. Nous avons le ventre vide lors de ce jour, mais ça ne nous empêche pas de nous réjouir dans cette fête parce que elle nous rappelle tellement de bonnes nouvelles, elle nous rappelle tellement de choses qui devraient vraiment nous encourager en ce qui concerne les événements passés, en ce qui concerne ce qui se passe au jour le jour, aujourd'hui, pendant notre vie, et aussi en ce qui concerne les choses qui auront lieu après le retour de Jésus-Christ. Vous savez, en ce qui concerne les instructions pour les fêtes annuelles que Dieu a données à Israël, c'est ce jour, le jour des expiations, avec la Pâque, qui ont les instructions les plus détaillées. À la différence de la plupart des fêtes, ce jour a tout un long chapitre qui lui est dévoué. Le symbolisme de ce jour est extrêmement encourageant pour nous individuellement, ainsi que pour ceux qui le représentent pour l'avenir de toute l'humanité, l'humanité dans son ensemble. Regardons Lévitique chapitre 23, verset 27. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, verset 27. Le sixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le mot expiation ici, c'est le mot hébreu kippourim. Et kippourim veut dire racheter, expier, offrir un remplacement ou un substitué. Le mot peut également être traduit par réconcilier, pacifier, purger, pardonner. Alors on pourrait très bien appeler ce jour le jour des paiements par substitution, le jour de la réconciliation, le jour des pardons, ou comme parfois les Juifs l'appellent, du grand pardon. C'est ici une question des rapports entre l'humanité et Dieu. Nous avons besoin de réconciliation. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que l'humanité, nous avons besoin de pardon. Les rapports entre l'homme et Dieu ont été trahis par l'infidélité de l'homme, des hommes et des femmes, tous les êtres vivants qui ont jamais vécu sauf un. Et ces rapports doivent être rectifiés par un rachat, par une expiation. Ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est de regarder des différents éléments qui faisaient partie de la cérémonie du jour des expiations en Israël pour en voir la signification. Nous allons voir que la vraie signification du jour des expiations ne peut être saisie qu'à la lumière du Nouveau Testament. C'est donc un jour saint du Nouveau Testament, puisque c'est seulement maintenant que nous pouvons pleinement saisir sa sens. Ce qu'on faisait en Israël ancien, le jour des expiations, se passait autour du tabernacle, ou plus tard autour du temple à Jérusalem. Alors, je voudrais nous donner un petit rappel de quoi il s'agit. Regardons quelques images du tabernacle et rappelons-nous ce qu'il y avait à l'intérieur. Voici donc un modèle du tabernacle qui existe véritablement dans le désert, je crois que c'est en Israël. Et vous voyez ici sur l'image les différentes parties. Il y a des parvis, ce qui comme une clôture qui marquait le terrain occupé par le tabernacle. Il y avait un autel sur lequel on brûlait les holocaustes, c'est ce que vous voyez à gauche sur l'image. Ensuite, il y a une cuve d'airain remplie d'eau avec laquelle les sacrificateurs pouvaient se laver au moment de leurs travaux, leurs fonctions, puisque sacrifier des animaux, il y aurait du sang, évidemment, donc il fallait savoir et pouvoir se laver. La tente, à proprement dite, la tente d'assignation, le tabernacle, c'est la partie que vous voyez à gauche qui ressemble à une tente. Et là, il y avait plusieurs niveaux d'épaisseur qui couvrait la tente, et ça faisait en fait que Israël, Dieu avait donné à Israël un temple portatif. On pouvait le monter, le démonter et le remonter autant de fois qu'il fallait. Et la vie ou la durée de ce tabernacle est un sujet intéressant. D'ailleurs, je compte vous en parler un peu plus pendant la fête des tabernacles à propos de le tabernacle dans la durée. Combien de temps ça a duré, où il a voyagé, même après son arrivée dans la terre promise. À l'intérieur du tabernacle, de la tente d'assignation, il y avait, comme vous le voyez ici, deux pièces. Il y avait le lieu saint, c'est la partie qui est plus près de nous, la partie qui est plus grande, séparée par un voile du saint des saints, ou du lieu très saint, qui est au-delà de ce mur au fond, là, ce mur en toile. C'était le voile du temple. Et à l'intérieur du lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait les pains de proposition, c'est ce que vous voyez un peu à droite, au loin. Il y avait l'autel de l'encens, et on brûlait de l'encens à Dieu tous les jours. Et puis, il y avait le chandelier à sept branches que vous voyez au fond à gauche. C'était ces choses-là qu'il y avait à l'intérieur du lieu saint. Puis, quand on passait au-delà du voile, et là, c'était seulement le souverain sacrificateur qui le faisait seulement une fois dans l'année. Alors là, on trouvait, au-delà du voile, on trouvait l'arche de l'Alliance. Voici une conception artistique de l'arche de l'Alliance. Et le couvercle qu'il y avait dessus est appelé le propitiatoire. Et c'était un lieu de miséricorde. En anglais, c'est souvent traduit par « mercy seat », le siège de la miséricorde. C'est une autre façon de traduire ce mot en hébreu, le propitiatoire. Et vous voyez qu'il y avait sur le propitiatoire, sur le couvercle, il y avait deux anges, deux chérubins qui avaient les ailes déployées au-dessus de ce qui représentait en fait le trône de Dieu. Ça représentait le trône de Dieu. Et vous savez très certainement, vous vous souvenez qu'à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait les deux tables de la loi que Dieu avait données à Moïse après qu'il ait cassé les premières tables. Dieu lui a donné deux tables en remplacement. Ces deux tables se trouvaient à l'intérieur. Il y avait un pot de manne qui ne pourrissait jamais. Et il y avait la verge d'Aaron à l'intérieur. Voici une autre conception de ce que devait représenter une conception artistique de l'Arche de l'Alliance avec le propitiatoire qui était dessus. Donc, gardez en tête la disposition des lieux et nous allons passer en revue maintenant, en prenant Lévitique chapitre 16, nous allons passer en revue les différentes étapes, ce que le souverain sacrificateur devait faire ce jour-là. Qu'est-ce qu'il devait faire ce jour-là? Eh bien, Lévitique chapitre 16 n'est pas strictement dans un ordre chronologique. Il y a parfois, on saute en avant, on saute en arrière un petit peu. Par exemple, le sacrifice du taureau est mentionné deux fois, au verset 6 et au verset 11. Et le sacrifice du bouc est également mentionné deux fois, au verset 9 et au verset 15. Donc, voici les étapes maintenant dans le rituel qu'Israël devait suivre. Et vous pouvez regarder dans vos Bibles, dans le chapitre 16. Je vous le conseille, si vous voulez, mais je vais les prendre par ordre chronologique. Premièrement, le souverain sacrificateur devait se laver et mettre ses vêtements sacrés. Ça se trouve au verset 4. Le souverain sacrificateur se lave et il met ses vêtements sacrés. Deuxièmement, il sacrifie un taureau pour lui et pour sa famille. Ça, c'est au verset 11. Il ne pouvait pas intervenir ou être intercédé, je voulais dire, pour les Israélites avant d'avoir ses propres péchés, du moins symboliquement, pardonnés. Donc, il fallait offrir un sacrifice, un taureau pour lui et pour sa famille, ce qui représentait le pardon de leurs péchés avant qu'ils puissent faire intercession pour les Israélites. Troisièmement, le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints avec le sang du taureau ainsi qu'avec le brasier. Et là, vous trouvez ça au verset 12 et 13. Il asperge le propitiatoire, le couvercle de l'Arche de l'Alliance, il asperge avec du sang du taureau. Verset 14. Quatrième étape. Ensuite, cinquième étape. Le souverain sacrificateur jette le sort sur les deux boucs qui avaient déjà été choisis et mis à part quelques jours auparavant. L'un est sacrifié et l'autre est lâché dans le désert. Ça se trouve au verset 8. Le souverain sacrificateur jette le sort sur les deux boucs qui avaient déjà été choisis. L'un est sacrifié et l'autre est lâché dans le désert. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel est choisi comme offrande d'expiation pour toute la nation. Il est donc sacrifié et il fait ainsi l'expiation. Le souverain sacrificateur entre une deuxième fois dans le Saint des Saints et pénètre au-delà du voile et il asperge le propitiatoire une deuxième fois, cette fois-ci avec le sang du bouc. Ça se trouve au verset 15. Ensuite, en sortant de la tente d'assignation, le tabernacle, il met du sang du bouc et du taureau sur l'autel des sacrifices qui est devant la tente. Rappelez-vous comme nous l'avons vu, ça c'est au verset 18. Il met du sang des deux animaux sacrifiés sur l'autel qui est devant la tente d'assignation, le tabernacle. Et donc, après avoir fait l'expiation pour le sanctuaire, ainsi, et la tente d'assignation, et pour l'autel, le souverain sacrificateur pose ses mains sur la tête du bouc vivant, et celui-là est envoyé dans le désert, loin des Israélites. Ça se trouve au verset 20 et jusqu'au verset 22. Étape suivante, le souverain sacrificateur entre de nouveau dans la tente d'assignation. Il change ses vêtements, enlève ses vêtements sacrés. Il se lave et il sort pour offrir un holocauste pour lui-même et pour le peuple. Ça, c'est au verset, c'est verset 23 et 24. L'homme qui sort le bouc du camp pour l'amener loin dans le désert, qui, comme nous allons le voir, représente l'ange qui lie Satan, cet homme doit se purifier rituellement, verset 26, puisque symboliquement, c'est lui qui a sorti les péchés, il était en proche contact avec les péchés de sa nation. Donc, il fallait qu'il se purifie rituellement. Le onzième étape, je ne les ai pas tous énumérés, mais d'après mon compte à moi, c'est le onzième. Un homme sort le taureau et le bouc du camp, les restes, et les brûle. Brûle les restes de ces animaux. Et puis finalement, l'homme qui a brûlé le taureau et le bouc, il doit à son tour se purifier rituellement également, au verset 26. C'est très très détaillé, n'est-ce pas, les instructions que Dieu donne. Et quand ça devient très détaillé dans la Bible, c'est qu'il y a des leçons importantes à tirer de ce que Dieu dit. Il fait les choses très précisément parce qu'il y a une signification à chaque aspect de ce que nous venons de lire. Alors, posons-nous la question, que nous montre le Nouveau Testament à propos de ce symbolisme? Et comme j'ai déjà dit, je l'avais dit tout à l'heure, il n'est pas possible de pleinement comprendre la signification de ces différentes étapes que les Israélites devaient pratiquer qu'à la lumière du Nouveau Testament. L'explication est donnée dans le Nouveau Testament. Cela ne paraît-il pas étrange que beaucoup de gens croient que maintenant que nous pouvons enfin comprendre la signification de ce jour, ben Dieu ne veut plus qu'on l'observe. Maintenant c'est fini, c'est du passé. Non, c'est pas logique. Dieu ne nous révèle pas la signification de ce jour pour que nous puissions l'abandonner et oublier il souligne pour nous. Le souverain sacrificateur représente qui? Et regardons quelques passages en hébreu pour nous rappeler. Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Verset 20. Hébreu chapitre 6, verset 20. Commençons au verset 19. Cette espérance, nous le possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Maintenant, nous comprenons ce que ça veut dire. Le souverain sacrificateur le faisait deux fois ou un seul jour dans l'année, le jour des expiations. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Et en fait, les souverains sacrificateurs d'antan, de l'histoire israélite, n'étaient que des illustrations de ce que Jésus-Christ allait faire. Ils n'étaient que des illustrations. Le vrai souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, pour toujours, c'est Jésus-Christ. C'est lui le souverain sacrificateur. Maintenant, regardons chapitre 7, verset 26. Nous allons glaner d'autres détails ici à propos de cette cérémonie du jour des expiations. Hébreux, chapitre 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Les souverains sacrificateurs physiques devaient offrir un taureau pour eux-mêmes et pour leur famille avant de pouvoir intercéder auprès de Dieu pour les Israélites. Mais Jésus-Christ, non. Il s'est offert lui-même, une seule fois. Et cela suffisait. Cela suffit encore. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Jésus-Christ sera toujours le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il n'y aura plus jamais un autre. Pas besoin de changer pour avoir un autre souverain sacrificateur. Chapitre 9 d'Hébreux maintenant, l'Épître aux Hébreux chapitre 9. Commençons au verset 1. Hébreux chapitre 9, verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Nous venons d'avoir quelques images de ce sanctuaire. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Il y avait donc un encensoir qui était dans le Saint des Saints, tout comme il y en avait un autre dans le lieu saint. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins et de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, qui représente le trône de Dieu. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. C'est-à-dire, les sacrifices d'animaux à cette époque-là ne pardonnaient pas vraiment les péchés. C'était une illustration de ce que le sacrifice de Christ allait accomplir, et il fallait les faire en attendant que Christ arrive. Dieu acceptait cela, il patientait, si vous voulez, si on offrait ses sacrifices comme il fallait, en attendant que le sacrifice de son Fils ait lieu. Ils étaient avec les aliments, les boissons, et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Nous n'avons pas besoin de passer par toutes ces activités maintenant. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Tout cela était temporaire. Imposé jusqu'à une époque de réformation, jusqu'au sacrifice de Christ. Mais Christ est venu, verset 11, comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le tabernacle en Israël, dans le désert, et plus tard le temple à Jérusalem, était une illustration, un modèle du trône de Dieu au troisième ciel. Il y a un lieu très saint où Dieu siège, et il y a un saint des saints. Et Jésus-Christ a pu pénétrer auprès du Père portant son propre sang. Ce que faisait le souverain sacrificateur juif ou lévite, eh bien, lui, il ne faisait que représenter, année après année, à chaque fois qu'on le faisait, ce que Jésus-Christ allait accomplir une fois pour toutes, sur le plan spirituel. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est parce que Jésus-Christ a pénétré au-delà du voile dans le temple céleste, dans la présence de Dieu, en apportant son propre sang, que nos péchés peuvent être pardonnés et que la porte vers la vie éternelle puisse s'ouvrir devant nous. Voilà ce que faisait le souverain sacrificateur, sans doute sans une pleine compréhension de ce qu'il préfigurait. Peut-être qu'il comprenait jusqu'à un certain point, on ne sait pas. Mais probablement, il ne comprenait pas tout. Il devait le faire comme illustration. Et c'est seulement maintenant, à la lumière du Nouveau Testament, que nous pouvons comprendre très clairement. Le mot propitiatoire, que nous avons lu en hébreu, dans les passages de l'Ancien Testament, c'est un mot hébreu, kaporet, qui a la même racine qu'expiation. Le propitiatoire, le siège de la miséricorde, était un lieu d'expiation, était un lieu de réconciliation, un lieu de rachat, où les péchés étaient purgés et pardonnés. Et tout cela a eu lieu quand Jésus-Christ est venu avec son propre sang, et il a symboliquement aspergé le propitiatoire avec son sang parfait, lui qui ne méritait pas la mort et qui l'a subi quand même. Le mot grec au verset 5 que nous venons de lire, c'est hilastérion. Hilastérion, quand nous lisons au verset 5 le propitiatoire, le mot grec c'est hilastérion, c'est le mot qui est utilisé ici pour parler du propitiatoire, mais c'est aussi utilisé dans Romains chapitre 3 verset 25, je vais le prendre brièvement, Romains chapitre 3 verset 25. Ce mot grec hilastérion est utilisé d'une autre manière dans Romains chapitre 3. C'est lui que Dieu a destiné, en parlant de Christ, destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, hilastérion. Jésus-Christ est le lieu de réconciliation. Il est le propitiatoire. Il est le lieu où il y a réconciliation, rachat, où les péchés sont purgés et sont pardonnés. C'est par lui. Ce que nous voyons donc, dans ces deux fêtes où il y a le plus de détails donnés concernant ce qu'il fallait faire ce jour-là, la Pâque et le jour des expiations, représentent tous deux le pardon et la réconciliation, le pardon du péché. La Pâque représente certains aspects du sacrifice de Christ, et la fête des expiations en représente d'autres. La Pâque touche plutôt la question du pardon individuel et la libération de l'amende de mort qui en résulte. Les expiations touchent davantage la réconciliation collective avec Dieu. Tout le peuple peut être réconcilié. Le plus grand accomplissement de ce jour, du symbolisme de ce jour, est encore à venir et aura lieu après le retour de Jésus-Christ, après l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Mais tout ce symbolisme s'applique déjà à l'Église, aux chrétiens, à ceux que Dieu a attirés vers son Fils et ceux qui ont reçu et accepté cet appel. Hébreux chapitre 9 toujours, lisons maintenant le verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y entrait, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Jésus est entré déjà dans le lieu très saint, le Saint des Saints, pour toute l'humanité, et il est là maintenant. Il reste là, à la main droite de son Père, et il intercède comme notre souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur intercédait entre Dieu et le peuple. Et c'est ce que Jésus-Christ fait pour nous maintenant. Il intercède. Il demande la miséricorde à Dieu le Père, à notre égard. Il demande la patience. Il demande le pardon. Il appuie nos demandes quand nous nous repentons devant Dieu. Jésus-Christ est là pour dire, Père, écoute-le, écoute-la. Je te demande. Toute l'humanité, finalement, a besoin d'être unie avec Dieu. Et le péché met une barrière entre les êtres humains et Dieu. Cela nous fait penser à Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché nous sépare de Dieu, comme l'archange dans le jardin d'Éden a empêché qu'Adam ne revienne, Adam ne revienne dans le jardin. Ils étaient empêchés, ils ne pouvaient pas. Il y avait une séparation là, entre eux et la présence de Dieu. Ça représentait le voile dans le tabernacle également. On n'avait pas le droit de pénétrer au-delà de ce voile. Comment est-ce que cette unité peut être atteinte? Eh bien, puisque le péché met une séparation entre nous et Dieu, eh bien, le péché doit être enlevé. Et heureusement pour nous, le plan de Dieu le prévoit. Le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour payer l'amende des péchés de toute l'humanité. Le sacrifice de Christ est suffisamment grand pour faire cela. Parfois, on pose la question, comment se fait-il que la mort d'un seul homme peut payer l'amende des péchés des milliards et des milliards d'individus? On pourrait croire, un homme peut sauver un autre homme. Comment se fait-il que la mort d'un homme peut payer l'amende des milliards d'êtres humains? Eh bien, la réponse est qu'il faut comprendre qui est cet homme. Il n'est pas seulement un homme, il est aussi le Fils de Dieu. Il est la parole. La parole, Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, regardons Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été créé a été créé par la parole, celui qui est devenu Jésus-Christ. C'est lui qui a créé l'univers. Avant cela même, avant de créer l'univers physique, il a créé le monde des esprits. Un passage qui dit que quand Dieu a créé la terre, les anges de Dieu, les étoiles, ont chanté de joie. Ils étaient présents quand Dieu a créé, par Jésus-Christ, l'univers physique. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui s'est agenouillée dans la poussière, dans le jardin d'Éden, et qui a fait ce tas de boue et l'a transformé en un homme et a soufflé le souffle de vie en lui. C'est lui qui plus tard a pris une côte pour créer la femme et qui a ainsi mis en marche la fécondité des êtres humains et qui nous a permis maintenant d'arriver au stade où il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont vécu. Mais toute cette création, autant de milliards que vous voulez, eh bien tout cela est moins important, a moins de valeur que celui qui les a créés. Et c'est ainsi que la vie de Jésus-Christ peut payer l'amende des péchés de toute l'humanité, parce que sa vie vaut plus que la somme de toutes nos vies réunies, tous les êtres humains qui ont jamais vécu. Sa vie vaut plus que nous tous, et c'est ainsi que Dieu accepte à notre place sa vie, au lieu de nous faire porter le poids de nos propres erreurs. Dieu réconcilie par le sacrifice de Christ toute l'humanité à lui. Et Dieu veut que nous travaillions à notre tour à la réconciliation également. Nous avons reçu une charge de réconciliation. Regardons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui est, mais pour celui, pardon, qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On tourne la page. Notre ancienne vie, on doit l'oublier. Maintenant, nous devons avoir un autre regard. Nous devons avoir d'autres valeurs. Nous devons chercher à plaire à Dieu avant de chercher à plaire à nous-mêmes. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons un ministère, un service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est une grande partie du message que l'Église doit prêcher aujourd'hui. Nous prêchons, ça fait partie de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, vous pouvez être réconciliés avec Dieu. Vous devez être réconciliés avec Dieu, parce que maintenant vous êtes séparés de lui. Et pour être réconciliés à Dieu, vous avez besoin d'accepter l'appel de Dieu. Vous avez besoin de mettre votre vie entièrement entre les mains de Dieu et de dire « je ne vais plus vivre comme je veux ». Je vais vivre comme Dieu veut que je vive. Le ministère de la réconciliation. Mais, vous savez, il y a deux volets à ce ministère de la réconciliation. Il y a le volet de l'Église. Tous ensemble, nous le faisons dans notre ensemble, en combinant nos efforts. Nous prêchons au monde, par les différents moyens à notre disposition. Nous prêchons la réconciliation et nous disons, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Vous pouvez le faire, vous avez besoin de le faire. C'est la volonté de Dieu pour vous et ça peut transformer votre vie. Ça, c'est notre responsabilité collective de ce ministère de la réconciliation. Mais nous avons aussi un ministère de la réconciliation personnelle. Comment est-ce que nous pouvons dire au monde « Soyez réconciliés avec Dieu » si nous ne pouvons pas nous réconcilier avec nos frères et sœurs? Maintenant, c'est parfois difficile d'être réconcilié avec des êtres humains. Et Dieu ne choisit pas toujours, il n'attire pas dans l'Église toujours des gens qui sont bien assortis les uns avec les autres d'un point de vue tempérament, personnalité, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Et j'en conviens, frères et sœurs, que nous avons parfois des défis supplémentaires dans le sens que presque partout où nous sommes présents maintenant, nous sommes dans des petits groupes. Si nous sommes dans des groupes, c'est déjà une bénédiction d'être dans une petite congrégation quelque part au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais c'est un défi d'être peu nombreux dans une assemblée. Parce que nous ne pouvons pas forcément trouver quelqu'un qui est très assorti à notre personnalité, notre type de personnalité. Les possibilités de friction sont plus grandes, puisque nous sommes toujours confrontés au même petit nombre de personnes. C'est parfois un défi, frères et sœurs. Mais c'est à cela que nous sommes appelés, de pratiquer la réconciliation, l'unification, le purge, le pardon, pour que nous puissions être ensemble. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et d'autres passages nous disent aussi les uns avec les autres. Jésus-Christ était prêt à mourir, crucifié, pour nous réconcilier à Dieu. Jusqu'à quel point sommes-nous disposés de faire ce qu'il faut pour être réconciliés les uns avec les autres? Est-ce qu'il y a des gens dans lesquels nous, peut-être des situations où nous ne sommes pas impliqués ou engagés, où nous pourrions aider deux personnes qui ne sont pas encore réconciliées, mais qui ont besoin de réconciliation? Est-ce que nous pourrions aider quelques autres personnes à être réconciliées? C'est une bonne question à se poser aujourd'hui, en cette fête de la réconciliation. J'ai connu dans le monde, pas dans l'Église heureusement, des personnes qui aiment semer la discorde, animer les flammes, vont aller raconter quelque chose ici, et puis quand la personne réagit, ils vont prendre ses paroles, ils vont aller de l'autre côté, ils vont les rapporter là-bas. Ils aiment attiser les feux de la discorde, les flammes de disputes et d'arguments. J'ai connu, probablement vous aussi, des personnes qui étaient prêtes à tordre la vérité, modifier ce qui était vrai pour donner une fausse impression dans le but d'exciter des querelles. Et d'autres qui savaient même dire la vérité au mauvais moment pour avoir l'effet le pire. C'est possible de dire la vérité, pas dans l'amour, mais dans le but de créer des tensions. Et vous avez certainement vu cela aussi. Mais heureusement, et il y en a beaucoup plus comme ça dans l'Église de Dieu, j'ai aussi connu des personnes qui travaillent de façon efficace à la réconciliation. Ils cherchent à unir, à réunir des frères et sœurs. Ils cherchent activement à créer une bonne entente, à adoucir la situation, à encourager le pardon, qu'on tourne la page. Nous devrions tous être comme cela. Quand je voyage assez souvent dans l'avion, comme vous le savez, je suis très souvent en déplacement, il m'arrive de temps en temps de voir un autre avion passer tout près. Et souvent, si les conditions atmosphériques sont disposées d'une certaine façon, eh bien, l'avion laisse derrière lui une belle trace de vapeur. Et vous avez vu ces vapeurs blancs, n'est-ce pas? Vous regardez même depuis le sol, parfois on regarde dans les airs et on peut voir ça. On voit où est passé l'avion. On sait quelle a été la trajectoire de l'appareil. On sait d'où il est venu, où il est passé. Nous laissons derrière nous des traces aussi. Les gens voient où nous sommes passés. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient quand nous sommes passés quelque part? Nous laissons des traces, mais de quelle sorte? Est-ce que nous laissons des traces de joie? Ou est-ce que nous laissons des traces de frustration, de colère, de confusion, de réconciliation? De réconciliation? Ça devrait être le cas. Nous avons été appelés au ministère de la réconciliation. Ce n'est pas toujours facile. Allons-nous relever le défi ou allons-nous dire « Non, c'est trop dur, j'abandonne, je ne veux pas. C'est trop difficile, quelqu'un d'autre le fera, moi je suis au bout du rouleau, j'ai plus la force. » On peut trouver facilement des excuses, n'est-ce pas? Finalement, une dernière signification de ce jour, c'est que Satan sera un jour enlevé de la scène. Ses mauvaises influences seront réduites au silence. Le responsable derrière les péchés d'Adam et Ève dans le jardin et de toute l'humanité depuis, il sera enlevé de la scène. Quel jour merveilleux ce sera. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 1. Éphésiens chapitre 2. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est qui? C'est toute la terre. Toute la terre est en rébellion contre Dieu. Et lui, il est l'esprit qui agit en eux. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, verset 3, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Mais qui est derrière la rébellion? Qui est derrière la séparation d'avec Dieu? C'est le prince de la puissance de l'air qui est derrière. Tout cela. Et un jour, la Bible nous dit, tout comme le bouc a été amené loin dans le désert, confessé les péchés sur sa tête et il est sorti, il ne peut plus revenir. Eh bien, Satan recevra ce jugement contre lui un jour. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il sera délié pour un peu de temps, et après ce peu de temps, il repartira dans l'abîme, et il y passera le reste de l'éternité. Il portera le poids de ses méfaits pendant toute l'éternité, lié pendant le millénium. Ça sera pour permettre la plus grande réconciliation de toute l'histoire. De toute l'histoire. La voie sera libre. Le millénium sera le moment quand l'humanité entière sera réconciliée à Dieu. Et nous, frères et sœurs, nous allons avoir l'occasion d'aider à administrer cette époque. Si nous apprenons maintenant la voie de la réconciliation nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, cela devrait être pour nous encourageant de comprendre, d'avoir la connaissance de la puissance du sacrifice de Jésus-Christ, sa grande valeur aux yeux de Dieu le Père. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes réconciliés à Dieu. Et un jour, ce sera le cas pour toute l'humanité, la planète entière. Imaginez comment ce sera. C'est sûr, c'est certain, puisque c'est la volonté de Dieu et rien ne pourra l'empêcher. Ça, c'est de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? En attendant de ce jour formidable encore à venir après le retour du Christ, en attendant, nous avons un ministère de réconciliation à accomplir également. En invitant les gens du monde par la prédication de l'Église, par nos exemples, d'être réconciliés avec Dieu. Et aussi de nous réconcilier les uns avec les autres. Et de chercher à aider d'autres personnes qui sont en froid à trouver la réconciliation entre eux. Et nous devons continuer de persévérer, de participer à l'œuvre de l'Église qui prépare actuellement le terrain, à petite échelle, mais qui prépare le terrain maintenant pour cette grande réconciliation à venir, qui le permettra, Dieu le permettra, quand ce sera le bon moment. Frères et sœurs, je vous encourage à être prudents sur la route vers la fête, où que vous ayez, et je vous souhaite une joyeuse fête des tabernacles, et je vous dis à bientôt.